Le journal est présenté par Anne Fauquembert.
Bonsoir. La Grèce se prépare à vivre une deuxième journée de grève générale demain, alors que le projet de loi sur la réforme des retraites arrive devant le Parlement et qu'une réunion de l'Eurogroupe se tient lundi. Nous serons à Athènes au début de ce journal avec Angélique Kourounis. L'invité du journal de 22h sera Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESSEG. Nous allons décrypter ensemble ce qui va se jouer la semaine prochaine entre Athènes et ses créanciers. Un procès sous haute tension en Turquie. Les deux journalistes du quotidien d'opposition Cumhuriyet ont échappé de peu à une attaque armée cet après-midi, mais le verdict est néanmoins tombé. Ils sont condamnés à de la prison pour divulgation de secrets d'État, nous dira Anne Andlauer. Londres a désormais un maire travailliste à sa tête. Le Labour vient de revendiquer la victoire de Sadiq Khan, musulman et fils de chauffeur d'autobus. Enfin, Manuel Valls s'explique en ce moment même sur Public Sénat. Contrairement au début de semaine, le Premier ministre n'exclut plus d'avoir recours au 49-3 pour faire passer la loi travail au Parlement. En Grèce, le projet de loi controversé refondant le système des retraites et des impôts arrive demain matin au Parlement. Réforme réclamée par les créanciers d'Athènes, Union européenne et FMI en échange du nouveau plan d'aide signé en juillet dernier. La grève générale des salariés du public et du privé a paralysé le pays aujourd'hui et va se poursuivre demain. À Athènes, la correspondance d'Angélique Kourounis.
Des milliers de Grecs ont défilé à deux reprises dans les rues d'Athènes et d'autres grandes villes de Grèce pour protester contre les réformes qui vont être soumises au Parlement dimanche soir. Réforme qui prévoit une baisse des retraites déjà baissée à 5 reprises ces 4 dernières années, la hausse des taxes et des impôts qui ont déjà été augmentés de 52%. Les caisses de retraite vont être réunifiées et une retraite unique proposée aux Grecs de 384 euros mensuels pour 20 ans de cotisation. Les Grecs sont d'autant plus en colère que cette recette proposée et appliquée au pays depuis 5 ans n'a pas porté ses fruits. D'autres manifestations sont prévues demain et dimanche dans tout le pays. Malgré la contestation, le Premier ministre de gauche, Alexis Tsipras, a demandé à ses députés de voter en faveur de ces réformes avant l'Eurogroupe qui doit se tenir lundi pour forcer les créanciers d'une part à ouvrir les négociations sur la réduction de la dette estimée à 184% du PIB et pour d'autre part continuer à recevoir les prêts promis, prêts qui selon la presse allemande ont servi à 95% dans le passé à sauver les banques européennes qui ont spéculé sur la dette grecque, alors que toujours selon la presse allemande, seuls 5% de ces prêts ont été financer les besoins du pays. Il n'empêche, pour Alexis Tsipras, ces réformes qui, selon lui, épargnent les plus défavorisés, sont indispensables pour empêcher le système des caisses de retraite de s'effondrer dans quelques années. Malgré sa faible majorité, 253 députés sur 300, Alexis Tsipras est à peu près sûr de voir ce texte adopté dimanche soir tard dans la soirée, malgré les rumeurs d'élections anticipées cet été qui ne cessent de gagner du terrain.
Les précisions à Athènes d'Angélique Kourounis. L'invité du journal de 22h, c'est Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESSEG. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Le vote à l'Assemblée nationale de la réforme des retraites et de l'impôt a été avancé à dimanche soir en raison d'une réunion de l'Eurogroupe lundi. Où en est-on du troisième plan d'aide à la Grèce voté par l'Union européenne il y a presque un an dans un climat, il faut le rappeler, de quasi-psychodrame ?
Alors, après les 183 milliards qui avaient été prêtés déjà dans le cadre des deux premiers plans de sauvetage, ceux de 2010 et 2012, par les pays européens, il y a eu déjà 21,4 milliards d'euros qui ont été prêtés dans le cadre du troisième programme qui a débuté en août 2015, sur un total de 86 milliards. Et il faut savoir que cette fois-ci, contrairement aux deux premiers programmes, c'est entièrement la part des Européens qui est mise à contribution. Ce sont entièrement les pays européens via le mécanisme européen de stabilité qui sont censés faire ces prêts. Le FMI n'a pas souhaité s'engager cette fois à faire de nouveaux prêts. Le FMI est simplement associé à la confection technique des plans d'austérité qui sont réclamés à la Grèce et aux examens censé être trimestriel de l'avancée des progrès.
Alors, vous parlez du FMI. Ce soir, la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, appelle les ministres des Finances de la zone euro à discuter d'un allègement de la dette grecque. Cela veut dire qu'actuellement, ce que la Troïka impose aux Grecs n'est pas soutenable à court, moyen et même long terme ?
C'est l'opinion de beaucoup d'économistes, mais c'est aussi l'opinion déclaré officiellement par le FMI depuis longtemps. On peut même dire que le torchon brûle entre les Européens et surtout Berlin et le FMI. En fait, comme je viens de le dire, déjà en 2015, le FMI avait dit qu'il ne pensait pas que le programme qui était imposé à la Grèce était crédible en l'absence de nouvelles mesures de restructuration de la dette. C'est pourquoi il avait dit qu'il ne serait prêt à reparticiper à des prêts que si la restructuration de la dette était négociée. Maintenant, le FMI va même plus loin. Le FMI dit, faisons-le tout de suite parce que rien n'est crédible sans cela. Parce que pour comprendre le psychodrame qui se joue actuellement, il faut savoir que en août 2015, les Européens, en échange des nouveaux prêts de 86 milliards, troisième programme, ont exigé de la Grèce des mesures d'austérité importantes, dont une partie va être votée justement ce soir, pour arriver à un surplus primaire énorme de 3,5% du PIB pour le budget de l'État. Donc clairement, ça veut dire que les recettes doivent dépasser les dépenses hors charges d'intérêt sur la dette de l'équivalent de 3,5% du PIB à partir de 2018 et pour très longtemps. Le FMI a toujours dit qu'il pensait que ce n'était pas raisonnable ni réaliste. Le FMI, en plus, n'est pas d'accord avec les Européens qui disent que les mesures qu'on va voter ce soir vont suffire à atteindre cet objectif. Le FMI prétend que cela ne permettra qu'un surplus primaire de 1,5%. Il y a donc une contradiction entre les experts européens et ceux du FMI.
Mais selon vous, Monsieur Dor, globalement, il faut restructurer cette dette grecque. Il y a urgence. Les Grecs, voilà, ils le disent hein, encore aujourd'hui, ils vont le redire demain, ne peuvent plus supporter ces mesures d'austérité. Les retraites vont encore baisser. Elles vont passer à environ 380 euros.
Ah, très clairement, l'histoire de la gestion un peu calamiteuse de la crise grecque depuis 2010, c'est effectivement une série de mesures qui se sont avérées finalement contre-productives pour permettre à la Grèce un jour de payer ses créanciers et surtout pour permettre à la Grèce de retrouver le chemin d'une croissance durable et pérenne. L'approfondissement trop marqué des ménages grecs, il faut savoir que le PIB de la Grèce a baissé de 25%, ça paraît inimaginable à nos yeux, et bien que tout cela n'a fait que faire plonger encore plus l'activité économique de la Grèce, et finalement les ratios de dette s'envolent plutôt que de diminuer. Et donc effectivement, le FMI a raison, c'est contre-productif de continuer à imposer des mesures trop drastiques.
La majorité d'Alexis Tsipras est très fragile au Parlement grec. Il est possible hein, d'ailleurs qu'elle n'arrive pas à imposer ses réformes ce week-end. À quoi peut-on s'attendre la semaine prochaine si les réformes n'aboutissent pas?
Alors si les réformes n'aboutissent pas, je pense qu'il va y avoir un énorme problème politique en Europe. Parce que maintenant, on voit vraiment la cristallisation du conflit qui était latent entre le FMI et Berlin. Et tout ça, alors que les Européens voulaient absolument se débarrasser du problème grec cette semaine, la semaine qui vient, parce que, qu'avons-nous en juin, on a le référendum britannique sur une éventuelle sortie de l'Union Européenne. Or, la mauvaise gestion de la crise grecque, et l'échec jusqu'à présent du retour de la Grèce à la croissance est utilisé depuis longtemps par les eurosceptiques en Angleterre comme l'exemple même des dysfonctionnements de l'Union européenne dont ils veulent sortir.
Merci.
C'est donc donner des arguments en fait aux partisans de la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, du Royaume-Uni.
Merci Eric Dor d'avoir été avec nous en direct. Vous êtes directeur des études économiques à l'IESEG. À Rome, les principaux dirigeants européens se sont retrouvés autour du pape François ce midi. Ils lui ont remis le prix Charlemagne, décerné tous les ans pour des travaux réalisés en faveur de l'unification européenne. Le pape le reçoit pour son implication dans la crise des migrants. François, qui a appelé l'Europe à ne pas considérer ces migrants comme des délinquants. 5 années de prison, c'est la peine prononcée par un tribunal pénal d'Istanbul contre 2 journalistes qui avaient divulgué un trafic d'armes organisé par les services secrets turcs à destination de la rébellion en Syrie. Une audience sous haute tension au cours de laquelle les journalistes ont échappé à une attaque armée. Leur procès est devenu le symbole des atteintes à la liberté de la presse en Turquie, tant le président turc Recep Tayyip Erdogan en a fait une affaire personnelle à Istanbul. Les précisions d'Anne Handlauer.
C'était le verdict le plus attendu de ces derniers mois en Turquie. Can Dündar et Erdem Gül, célèbres journalistes du quotidien d'opposition Cumhuriyet, écopent respectivement de 5 ans et 10 mois et de 5 ans de prison pour avoir révélé des secrets d'État. Le procureur avait réclamé jusqu'à 35 ans de prison, mais les juges les ont acquittés des charges d'assistance à une organisation terroriste et de tentative de coup d'État. Les deux hommes sont ressortis libres, mais avec la ferme intention de faire appel de ce jugement auprès de la Cour de cassation. Le tribunal a rendu son verdict après plus de 10 heures d'une audience tenue à huis clos. qui a failli tourner au drame. Peu avant l'énoncé du verdict, alors que les journalistes attendaient sur le parvis du palais de justice, un homme a surgi, arme à la main, tirant deux coups de feu en direction de Jan Dündar. Le journaliste n'a pas été touché, mais un collègue a été légèrement blessé. « Je ne sais pas qui m'a attaqué, mais je sais qui l'a encouragé en faisant de moi une cible », a déclaré Jan Dündar, désignant sans le nommer Recep Tayyip Erdogan. Car le président turc avait porté plainte en personne en mai 2015, après la publication par le journal Cumhuriyet de photos montrant des camions des services secrets turcs à la frontière turco-syrienne. Ils étaient censés convoyer, selon la version officielle, de l'aide humanitaire, mais les images montraient en fait des milliers de munitions cachées sous des boîtes de médicaments. Le président avait menacé les journalistes, promettant, je cite, de leur faire payer très cher.
À Istanbul, la correspondance d'Anne Handlauer. C'est désormais officiel, le travailliste Sadiq Khan est le premier maire musulman de Londres. Il a battu le conservateur Zach Goldsmith, un succès qui vient en partie atténuer le premier test électoral du parti travailliste de Jeremy Corbyn, parti qui a en fait reculé à l'occasion des élections régionales et locales d'hier en Grande-Bretagne. À Londres, les explications de Franck Madvon.
La victoire de Sadiq Khan à Londres, dont il va devenir le premier maire musulman, permet aux travaillistes de sauver les apparences, mais Jeremy Corbyn n'aura pas passé sans encombre son premier test électoral en tant que leader du Labour. En Écosse, son parti termine troisième, derrière les indépendantistes, toujours majoritaires, et surtout derrière les conservateurs. Il a pourtant été longtemps la principale force politique de la province, c'est donc une lourde défaite. Mais Jeremy Corbyn retient le fait que le Labour a limité la casse au Pays de Galles, et surtout en Angleterre, où il perd une vingtaine de sièges, moins que les prédictions. On s'est accroché, a-t-il commenté. On a augmenté notre soutien dans beaucoup d'endroits. Voici le message du Labour, que l'économie peut et sera pilotée d'une manière très différente, qui marche pour tous, pas seulement pour une poignée, comme sous les Tories. Ce message positif, beaucoup de responsables travaillistes n'y croient pas. Ils estiment que Jeremy Corbyn détruit le parti en mettant la barre à gauche toute, qu'il offre un boulevard aux conservateurs, qui signe par ailleurs une performance honorable, mais le bilan du Labour aujourd'hui n'est pas désastreux et de toute façon, son leader conserve le soutien des militants.
Les précisions de Franck Madvon. Le congrès du Parti des travailleurs nord-coréens s'est ouvert ce vendredi à Pyongyang. Le numéro 1 du pays, Kim Jong-un, a salué en ouverture l'essai nucléaire historique du mois de janvier dernier et s'est condamné par la communauté internationale. Ce congrès est un événement puisque le dernier s'est tenu il y a 36 ans. Des délégués sont venus de tout le pays pour assister à cette réunion de plusieurs jours dont le but est d'asseoir l'autorité de Kim Jong-un. Manuel Valls maintient le doute sur les intentions du gouvernement en cas d'échec de la loi travail au Parlement. Le Premier ministre avait assuré pourtant à l'ouverture des débats en début de semaine ne pas privilégier le recours au 49-3 et donc le passage en force sans vote. Changement de ligne visiblement du Premier ministre. Dans une émission diffusée en ce moment même sur Public Sénat, il dit qu'il ne faut jamais renoncer à un moyen constitutionnel, Cécile Asp.
Nous verrons la semaine prochaine, mais ce texte doit passer, dit Manuel Valls. Il est vrai que le risque est important pour le gouvernement. Ce projet de loi n'aura pas forcément la majorité à l'Assemblée. Le rapporteur du texte, Christophe Sirugue, parlait en début de semaine d'un déficit de 40 voix. Les traditionnels frondeurs, mais aussi une vingtaine de députés socialistes, d'habitude plutôt attentifs aux consignes du gouvernement et qui se révèlent cette fois très critiques. Or, le groupe PS n'a pas à lui seul la majorité absolue à l'Assemblée. Il peut certes compter sur des voix de radicaux de gauche et d'écologistes pro-gouvernement. Mais les Verts, les élus du Front de Gauche, les Républicains et les centristes voteront contre la dernière grande réforme du quinquennat. D'où un risque non négligeable que ce projet de loi ne soit pas adopté. Et puis d'autre part, ce débat, prévu pour être court, 4 jours seulement la semaine prochaine, risque de s'enliser avec plus de 5000 amendements à examiner. Décidément, il commence à ressembler furieusement à celui de la loi Macron qui avait contraint le gouvernement à dégainer le 49-3. Pourtant, Manuel Valls n'était pas favorable, vous le disiez, au vote bloqué. À un an de la présidentielle, ça fait mauvais effet. Mais tout plutôt qu'un vote négatif, surtout avec une mobilisation qui continue dans la rue. Jeudi prochain, en effet, lors du dernier jour de débat à l'Assemblée, les syndicats, CGT, FO, FSU, Solidaires, et puis étudiants, lycéens, UNEF, FIDEL et UNEL, appellent à nouveau à descendre dans la rue pour dire non à la loi travail. Le gouvernement ne peut pas se battre sur tous les fronts. S'il ne parvient pas à convaincre sa majorité de voter son texte, il devra à nouveau employer le 49.3.
Le BHV va bien devenir le premier grand magasin parisien à ouvrir le dimanche. Ce sera effectif d'ici au 1er juillet. Un accord a été signé dans la semaine par deux des quatre syndicats représentatifs, la CFE-CGC et Sud. La CFTC a renoncé cet après-midi à faire jouer son droit d'opposition. Le dernier syndicat, la CGT, ne peut plus s'opposer seul au texte de la direction. La météo de votre samedi, la plus grande partie du pays profitera d'une nouvelle journée ensoleillée. Les températures iront de 7 à 14 degrés demain matin, l'après-midi. Il fera de 20 à 25 degrés.